Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue sur la radio Bac FM 106.1 dans une émission animée par Robinson Daoust et consacrée à la préparation de l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Nous allons travailler aujourd'hui un sujet de dissertation portant sur deux notions du programme de philosophie de terminale générale, à savoir la technique et le bonheur. Le sujet que nous nous posons est le suivant. Le progrès technique est-il une assurance de bonheur ? Et pour développer une réponse sur ce sujet, nous accueillons au micro de Bac FM Clément Denuit, professeur de philosophie. Bonjour monsieur.
Bonjour Robinson.
Alors, lorsqu'on est confronté à un sujet de ce type le matin de l'épreuve, comment faut-il s'y prendre ?
Alors la première des choses, c'est comment choisir un sujet. C'est un sujet sur lequel vous sentez que vous avez des choses, d'une part des idées et qui vous donne envie de réfléchir. Ça c'est déjà une bonne chose, que ça vous donne envie de réfléchir. En l'occurrence, c'est un sujet dont on voit assez bien les enjeux. Le bonheur, c'est une notion qui nous parle facilement. Et par ailleurs, le progrès technique, on y est tous confrontés au quotidien et c'est un thème dont on parle beaucoup.
C'est un sujet d'actualité.
Donc oui, ce sera important dans l'introduction d'indiquer des enjeux, c'est-à-dire pour quelles raisons on pose ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'il est important de se le poser. Alors la première chose, c'est de commencer par définir les termes importants du sujet. Définitions qui ne sont pas, alors c'est contradictoire, mais définitives, c'est-à-dire que à mesure que la réflexion progresse, il faut justement se donner du temps. La réflexion ne parvient pas à tout dire ou à tout comprendre dès le départ. Donc ces définitions vont évoluer, c'est normal. Commencer par les définitions, on va dire, les plus simples, qui permettent de faire apparaître une difficulté, de faire apparaître un problème. Et souvent faire apparaître un problème, c'est-à-dire problématiser, c'est que ça, parce que le terme problématique fait un peu peur. Pourquoi il y a un attique au bout? En réalité, c'est simplement expliquer pourquoi la question se pose. Il y a une distinction qu'il faut faire entre une question et un problème. Il y a des questions, quelle heure est-il? Vous me donnez la réponse, vous me donnez l'heure. C'est une question, mais il n'y a pas de problème. Et il y a par contre des questions qui posent problème. C'est-à-dire, la réponse n'est pas évidente. On ne sait pas quoi répondre. Donc, il faut expliquer en problématique pourquoi. De prime abord, comme ça, on ne sait pas quoi répondre. Ou alors, il y a des réponses qui sont contradictoires. Donc, ça va consister d'abord à rappeler les préjugés, les idées un peu toutes faites qui circulent, la réponse qu'on aurait spontanément à faire, et puis à essayer de la mettre à mal, indiquer les présupposés qu'elle contient, les préjugés qu'elle contient, la mettre en difficulté, et quand on est dans cette difficulté, voilà, il y a une réponse qui semble évidente en réalité, elle n'est peut-être pas, on est dans la capacité de répondre, et c'est à ce moment-là que la réflexion peut commencer.
Les préjugés sont en fait des choses qu'il faut utiliser pour l'épreuve.
Oui. Penser, c'est, comme le disait Platon, un dialogue de soi avec soi, donc on commence par émettre une idée, par affirmer quelque chose, et puis on se demande si c'est vrai. Et donc, il faut bien commencer par se servir des idées qui circulent, qu'on entend à la radio, qu'on entend à la télé, qu'on lit dans les livres, et qu'on n'a pas eu le temps d'analyser. Ça va être justement là l'occasion.
Il faut donc définir les termes. Donc, quel terme dans cette question à définir ?
Oh, peu importe. Commençons par le terme de technique. Ici, en l'occurrence, qui est articulé avec la notion de progrès. Progrès, ça signifie qu'on va vers le mieux. C'est pas simplement que ça augmente, que ça se développe, c'est que c'est une augmentation ou une évolution qui va vers le mieux. Et la technique, là il y a un petit piège, ça à définir très largement comme tout procédé efficace qui permet de parvenir à un but. Autrement dit, c'est diriger la technique par une logique d'efficacité. Si la technique n'est pas efficace, on parlera justement d'un manque de technique et pas de technique. L'autre point qui est important, c'est qu'une technique, ça se limite pas à un objet technique. On a tendance souvent à identifier technique et technologie et à réduire les techniques à des objets techniques. Et par exemple, des techniques de management, il n'y a pas d'objet qui rentre en jeu.
Mais
là, par contre, c'est de parvenir à une efficacité avec le moins de personnel possible, être le plus productif possible. Et des techniques footballistiques, de quelle manière, en faisant un dribble, je vais faire la différence, me démarquer, marquer le but. Donc technique, tout procédé efficace pour parvenir à un but. Néanmoins, quand il est question de progrès technique, on pense quand même en priorité, je sais pas, au téléphone, aux ordinateurs, à tous ces objets technologiques évolués de notre quotidien.
Donc, quand on commence notre travail durant l'épreuve, il faut définir les présupposés, questionner la problématique, voir les enjeux et définir les termes. Et que conseillez-vous de faire au brouillon ?
Alors juste comme j'ai pas, je réponds à votre question et puis je définis juste d'abord le terme de bonheur. Le bonheur, on définit cela classiquement comme étant un état conscient de satisfaction globale et durable, si possible fondée sur la vérité. Donc ça signifie pas que c'est de la joie et on bondit de joie en permanence, ça signifie que globalement, ça va, on est bien. Qu'est-ce qu'on fait au brouillon ? Il y a beaucoup de choses à faire au brouillon. Le conseil, c'est de pas débuter la rédaction au propre de sa dissertation avant au moins 45 minutes. On a commencé justement à définir les termes, commencé à problématiser. Ce qu'il faut éviter lorsque vous voulez faire votre plan, c'est que vous risquez de vouloir faire un plan un petit peu binaire, ou alors un plan en trois parties. On vous a dit, votre professeur vous a dit qu'il faut faire un plan en trois parties. Donc vous allez faire une première partie, oui. Là, en l'occurrence, c'est une question fermée, c'est-à-dire on peut y répondre par oui ou par non. Vous allez faire première colonne oui, deuxième colonne non, et puis une troisième colonne, et vous dites, je vais mettre toutes les idées que j'arrive pas à mettre dans la première et dans la troisième colonne. Ça va être thèse, antithèse, et puis ce que Sartre appelait foutaise, au lieu de synthèse. Ah, faut éviter de faire ça. Surtout, la troisième partie, du coup, ne va défendre aucune thèse particulière, mais ça va être un foutoir, excusez-moi le terme, d'idées qui n'ont ni queue ni tête, qui vont dans n'importe quel sens, et on n'analyse plus. Alors qu'au contraire, c'est un travail méthodique et réflexif. Donc, commencez par l'idée la plus simple. Je commence par vraiment l'idée la plus simple. Apparemment, il me semble, on va débuter par là, que le progrès technique, oui, semble. C'est la promesse, en tout cas, qui est donnée à travers le progrès technique, assurer notre bonheur. On est sûr de parvenir au bonheur. Et donc, faut s'y abandonner, on peut s'y abandonner en toute confiance. Dans une deuxième partie, au fond, c'est peut-être plus compliqué que ça. C'est loin d'être évident. Et peut-être même c'est l'inverse. Peut-être que le progrès technique, loin de nous assurer le bonheur, fait notre malheur. On a du mal à s'en apercevoir parce qu'on croit toujours qu'il va faire notre bonheur. Donc on se dit, plus tard, ça va arriver, mais ça arrive toujours pas. Et dans une troisième partie, étant donné que c'est loin d'être évident que ça fasse notre bonheur, et que pourtant, ça serait sans doute stupide de renoncer au progrès technique, comment on se sert du progrès technique pour qu'il produise plus de bonheur que de malheur? Donc plutôt faire ce travail de thèse, plutôt que de oui, non, et de classer ses idées dans ces catégories un peu creuses et vides.
Alors, commençons donc cette première grande partie. Vous dites que le progrès technique est l'assurance d'un bonheur futur, et c'est ce qu'on défendrait dans le grand 1, donc. Comment le défendre? Ces idées, c'est l'idée qui est la plus répandue, au final, que le progrès technique nous assurerait le bonheur.
Oui. Même quand on est technocritique, on a tendance à baigner tellement quotidiennement dans un univers où c'est ça qui est promu, ce développement technique, qui semble être désirable pour lui-même, que oui, on estime qu'il va assurer notre bonheur. Alors là, on se fait référence à une autre technique, c'est la technique publicitaire ou la technique de marketing, qui nous vend au fond un bonheur qui passerait par tout un tas d'outillages, par tout un tas d'objets techniques, qui vient faciliter l'existence, qui vous évite les efforts, qui vous évite les soucis, qui vous évite les tracas. On est d'accord, hein, l'existence, c'est beaucoup de tâches à faire, c'est beaucoup de choses à penser, c'est des efforts parfois pénibles. Et si, avec ce canapé, tout d'un coup, vous n'avez plus mal au dos, si avec cette télévision, c'est fini pour vous de vous demander « qu'est-ce que je vais faire ce soir ?» Vous voyez à quel point ça facilite votre existence. C'est ça le bonheur. Ce serait une vie facile, une vie aussi sans doute où vous avez plus de temps, puisque c'est une promesse de gain de temps aussi. C'est des outils qui vont fonctionner à votre place. Donc apparemment, oui. La technique nous est présentée comme quelque chose, le progrès technique nous est présenté comme quelque chose qui va assurer notre bonheur.
Et en plus d'assurer notre bonheur, le progrès technique pourrait en fait atténuer, voire supprimer toutes les causes du malheur qu'on pourrait trouver dans notre vie. Donc c'est une thèse qu'on appellerait le solutionnisme ?
Ouais, alors le solutionnisme, ça s'est développé dans les Silicon Valley, là où véritablement beaucoup d'argent est octroyé et donné pour développer des techniques. Le solutionnisme, c'est la thèse selon laquelle tout problème humain, tout problème de l'existence est réductible à un problème technique. Donc la mort, par exemple, c'est un problème technique, peut se ramener à un problème technique. Les problèmes politiques peuvent se ramener à des problèmes techniques. Les problèmes existentiels peuvent se ramener à des problèmes techniques. Et tout problème technique a une solution technique. Donc tout problème a une solution, et la technique, si on met les ingénieurs, l'armée d'ingénieurs suffisante pour s'y atteler, on va réussir à régler cela. Alors par exemple, je parlais de la mort, ça semble extrêmement curieux de considérer que la mort est un problème et qu'il peut être résolu. Ça signifie pas qu'il va être résolu par une forme de sagesse, dans une acceptation de notre finitude. On va mourir, on vieillit, c'est comme ça, il faut s'y adapter, puis réussir à vivre heureux malgré tout. Non. C'est un problème, ce n'est pas une fatalité, et si on se sert de certaines technologies NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, cognitivisme, etc., à mesure que la machine corporelle se dégrade, on peut la réparer, on peut la soigner, et on peut supprimer la mort. Alors voyez bien, si on arrive à supprimer la mort, si on arrive à supprimer la vieillesse...
Alors, si on en croit toutes ces belles paroles, le progrès technique, au final, arrangerait tout.
Oui. Ça semblait effectivement, c'est le terme qui est dans le sujet, nous garantir un bonheur, ce serait impossible de passer à côté. Et le progrès technique nous donnerait cette sérénité. Si on s'arrête un petit peu sur la notion de bonheur, si on ne se concentre pas uniquement sur le progrès technique, il faut réussir à articuler, à tenir les deux. Il y a des sagesses de l'Antiquité comme l'épicurisme qui se promettent de parvenir au bonheur en atteignant l'ataraxie, l'absence de troubles de l'âme et l'absence de troubles du corps. Et ça consistait à se détacher de tous les désirs qui ne sont pas nécessaires, si je simplifie, dans un monde où il n'y avait pas de médicaments, où il y avait très peu de techniques, et un monde qui était instable. On pourrait considérer à l'inverse, il n'y a plus besoin de cette sagesse-là, désormais justement par la possession de tout un tas d'objets techniques, simplement par l'acte d'achat, ça y est, on va obtenir cette sérénité. Soyez tranquille, vous n'avez plus de problème. Et c'est quand même ça qui peut nous faire le bonheur, un bonheur complètement douillet et confortable. Il n'y a plus de soucis, c'est fini, il n'y a plus de mort, il n'y a plus d'angoisse.
Et il y a quelque chose qui est souvent nécessaire dans une copie de dissertation, c'est de placer des références à, par exemple, des philosophes ou des textes. Y a-t-il un philosophe qu'on pourrait citer parlerait de cette thèse où le progrès assurait le bonheur?
Oui, alors faut pas essayer de caser comme ça un philosophe, même si c'est bien effectivement de montrer qu'on a été présent pendant le cours de philosophie pendant l'année et qu'on n'est pas simplement capable de citer une phrase d'un Walt Disney. Là, René Descartes, qui est un philosophe important, un philosophe du XVIIe siècle, aurait sa place notamment dans ce qu'il dit dans la sixième partie du discours de la méthode, où justement... il a découvert une méthode qui permet de parvenir à des découvertes scientifiques qui vont être utiles pour développer des techniques qui vont faciliter l'existence humaine. Donc on va se servir des forces de la nature en comprenant les lois, en comprenant le fonctionnement, pour que la nature produise artificiellement des effets à volonté qu'elle ne produit pas d'elle-même. Et donc on va pouvoir décupler nos forces, on va pouvoir se faciliter l'existence par l'invention de machines, etc. Et donc vivre plus longtemps, avoir plus de temps, et il veut se concentrer sur la médecine. Le corps humain, au fond, peut être ramené, compris comme étant un mécanisme, comme étant une machine, et si on développe les sciences médicales, tout ce qui nous empêche de bien penser et de prendre de bonnes décisions, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a mal à la tête, parce qu'on a une rage de dents, etc., le corps va nous laisser tranquille, on pourra mieux réfléchir, prendre de meilleures décisions, être plus sage. Et chez Descartes, c'est pas simplement donc aussi bête que ce qu'on disait précédemment, que le progrès technique va nous assurer, nous garantir comme ça le bonheur en nous donnant la facilité, etc., mais va nous permettre d'être plus sage. Ça va déboucher sur un gain de sagesse.
Et est-ce que vous pensez que nous avons assez d'éléments pour notre grand actuellement?
Assez, je ne sais pas. On n'est pas obligé, lorsqu'on fait une dissertation de philosophie, d'avoir trois sous-parties par partie. En l'occurrence, on a suffisamment étayé peut-être notre première idée, donc on peut passer à la deuxième partie, c'est-à-dire commencer par mettre en question les idées que nous avons défendues dans cette première partie, peut-être de manière factuelle, c'est-à-dire en essayant de constater, de dire, regardons ce qui se passe. Les gens, il y a un progrès technique qui est extrêmement important. Peut-être il n'est pas si évident que ça que les gens soient plus heureux qu'à d'autres époques. Et puis, des problèmes qui sont structurels, c'est-à-dire qui relèvent du mode de fonctionnement ou de l'être de la technique ou de ce qu'est le bonheur.
Nous allons maintenant marquer une petite pause musicale, le temps d'écouter Un monde nouveau de Feu Chatterton. Et nous nous retrouverons juste après pour poursuivre notre dissertation. A tout de suite.
Sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central, un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. Que savions-nous faire?
bégayaient tous sans n'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Et les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth.
Nous sommes de retour dans le studio de Bac FM pour continuer notre émission consacrée à la préparation de l'épreuve de dissertation de philosophie du baccalauréat. Notre sujet est « Le progrès technique est-il une assurance de bonheur ?» Nous étions arrêtés sur la première grande partie dans laquelle nous montrions pourquoi on pourrait penser que le progrès technique était effectivement une assurance de bonheur. Maintenant, comment faire une transition vers notre deuxième grande partie dans laquelle on est censé montrer un petit peu le contraire ?
Alors, La transition, ça consiste à rappeler, à faire une synthèse. C'est bien de faire ce mouvement justement réflexif. Voilà, on se retourne vers ce qu'on vient de dire. Voilà où on en est. Essaye de faire apparaître un élément qui déjà pose problème. On peut pas s'en tenir là, on peut pas s'arrêter là, puisqu'il y a encore des difficultés qu'il faut éclaircir. Alors il y a plusieurs manières ici de faire apparaître des difficultés. Comme je vous disais, ça peut être factuel ou ça peut être structurel, ou dire bah finalement on n'a pas compris ce que c'était que le bonheur. Par exemple, du point de vue factuel, si on essayait de défendre la thèse selon laquelle, dans un premier temps, le progrès technique semblait assurer notre bonheur, alors si on interroge les gens sur le progrès technique, c'est ce qu'ils devraient affirmer. En réalité, les sondages tendent à montrer que lorsqu'on veut proposer un nouvel objet technique à la population, lorsqu'on avait préparé cette émission, vous m'aviez parlé de la domotique, par exemple, des objets connectés, plutôt c'était le téléphone. En réalité, encore plus tôt, c'était l'automobile. Les populations n'en veulent pas, souvent.
C'est-à-dire, ce sont des choses qui font peur.
Voilà, même les Américains, on pourrait définir la culture américaine, c'est très important, la place de l'automobile, la liberté, l'autonomie, etc. Mais ça pollue, ça coûte cher, c'est dangereux. Le téléphone, bon, finalement, on en avait déjà un chez nous. Pourquoi est-ce qu'on va, ça coûte cher aussi. Pourquoi est-ce qu'on va s'encombrer avec des appareils superflus? Et puis, la maison connectée, est-ce que c'est véritablement ce à quoi les gens aspirent? C'est pas sûr du tout. Donc, on est plutôt conditionné à vouloir ces choses-là que dans un premier temps, nous ne voudrions pas. Peut-être qu'au fond, on sait bien que, au fond de nous, c'est pas comme ça qu'on parvient au bonheur.
Donc la technique, en fin de compte, serait ambivalente. Et pour donner une définition simple de ce qu'est l'ambivalence, qu'est-ce que vous diriez ?
Alors, ambivalence, ça signifie qu'au sens étymologique, ça a deux valeurs, la plupart du temps des valeurs opposées. Si vous prenez un couteau, on va dire qu'un couteau est ambivalent, même s'il est fait pour couper, dans le sens où vous pouvez vous en servir pour attaquer, et vous pouvez vous en servir aussi pour défendre. Donc pour faire le bien comme pour faire le mal. Donc les objets techniques sont ambivalents dans le sens où la plupart du temps, ils sont le remède, mais aussi le mal. C'est-à-dire que les remèdes sont aussi porteurs de leurs effets toxiques. Alors avant d'aller aussi loin sur le pharmacone, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. On peut se servir pas seulement de références philosophiques dans une dissertation, mais des fois aussi de films, par exemple. Ça me faisait penser à ce qu'on disait précédemment au film Fight Club. Je sais pas si vous avez vu de David Fincher, où vous avez le narrateur au début du film qui est entouré de tas d'objets. Il a la dernière, tout ce qu'il a vu dans le catalogue Ikea, le confort. Il travaille dans les assurances, justement. Donc, aucun malheur risque de lui arriver. Son existence est protégée de tout. Mais qu'est-ce qui s'ennuie? Il vit pas. Il n'a pas la sensation d'exister, de sentir, d'éprouver. C'est pour ça qu'il a besoin d'aller à ce club de combat pour prendre des coups, pour se sentir être. Donc le bonheur nous endort, c'est peut-être pas de cette manière-là qu'on peut y parvenir. De manière plus conceptuelle, un philosophe qui s'appelle Alain, qui écrit dans les propos sur le bonheur, en réalité on confond souvent le plaisir et le bonheur. Le plaisir nous met dans une situation de dépendance. Je vais prendre du plaisir en buvant quelque chose, je vais prendre du plaisir à quelque chose. Tandis que le bonheur, il peut être souvent indépendant de tel ou tel objet. Donc le plaisir nous met souvent dans une situation de passivité. On reçoit. Alors que le bonheur, ça s'obtiendrait plutôt en étant actif, en faisant quelque chose, en se donnant du mal, en allant conquérir. Ce qui permet aussi d'être content de soi. Tiens, j'ai réussi à faire quelque chose, je pense que je m'en sentais pas capable, etc. Donc, des fois, il faut pas opposer finalement la peine au bonheur. Une peine voulue, une peine recherchée peut nous mener au bonheur. Et donc, c'est pas, sans doute pas en voulant éviter toute peine qu'on peut parvenir au bonheur. On arrive peut-être à une existence inintéressante et ennuyeuse, mais pas au bonheur.
C'est tout là l'activité d'un sportif, de passer du temps et de la peine à s'améliorer, à faire des exercices, à revenir, à s'entraîner pour au final la réussite et effectivement le bonheur.
Ouais. Développer ses capacités, entraîner ses capacités, donner quelque chose de soi-même. Oui, c'est ça qui nous rend heureux plutôt qu'être effectivement encore une fois dans la passivité.
C'est un sentiment que je partage. C'est mon avis. Je suis assez d'accord avec la thèse d'Alain.
Donc plutôt que de rester le matin assis sur le canapé à regarder la télé, vous préférez vous lever pour aller courir sous la pluie?
Pas jusque sous la pluie, mais sinon, ça s'applique bien, oui.
D'accord. Donc, on peut peut-être en revenir à cette idée de pharmacone. Mmh. C'est un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Derrida, qui a fait un commentaire d'un texte de Platon qui s'appelle Le Phèdre. Son travail s'appelle la pharmacie de Platon. Et il reprend un terme que développe Socrate qui est le maître de Platon. Platon met en scène Socrate dans ses dialogues, dans lequel il, pour désigner une technique particulière, l'écriture, mais au fond toute technique, car déjà dans un autre dialogue de Platon, le Protagoras, il utilisait le même terme, il utilise le terme de pharmacone. Un pharmacone, ça renvoie à pharmacie, ça renvoie à médicament, c'est à la fois un remède et un poison, et il s'en sert pour désigner les techniques. Toute technique est à la fois un remède et un poison, alors dans des proportions qui peuvent changer, de la même manière qu'un médicament, c'est une question de dosage. Si vous en prenez trop, ça a des effets secondaires et ça fait souvent plus de mal, ça peut faire plus de mal que de bien. Et donc, pour se limiter à ce simple exemple de l'écriture qu'il prend, il dit au fond, l'écriture, si vous contentez de lire un texte qui vous est donné, ça donne l'apparence de l'intelligence, vous répétez des choses, mais au fond, vous ne les avez pas compris, vous ne savez pas ce que vous faites, donc vous pouvez dire des choses qui sont dangereuses parce que vous ne les comprenez pas. Et l'écriture dispense de penser, de trouver la vérité en soi-même, et risque de faire perdre la mémoire, puisque en même temps que ça sauve la mémoire, comme c'est écrit, c'est préservé, j'ai pu à le retenir, j'ai pu à l'apprendre par cœur, et ça vide un petit peu la tête. Donc ça a des effets ambivalents, et on va le montrer en troisième partie, sans anticiper, il faut bien en être conscient.
Et ça s'applique également dans des objets actuels. Par exemple, je sais que par d'expérience de personnes plus âgées, de générations anciennes, plus anciennes, pas vraiment anciennes, les numéros de téléphone étaient des choses qui étaient connues par cœur, alors qu'actuellement, enregistrés dans absolument tous nos smartphones, je prends mon exemple pour cas, je ne connais absolument, j'ai même du mal à retenir mon propre numéro de téléphone.
Donc vous perdez votre téléphone, vous perdez votre carte SIM. Tout est perdu.
Tout est perdu.
Alors, on peut considérer que dans un certain sens, c'est bien de ne pas s'encombrer la tête en apprenant par cœur tout un tas de choses et qu'on peut consacrer plus de temps à réfléchir, à penser, etc. Un philosophe qui est décédé l'année dernière, qui s'appelle Michel Serres, qui allait plutôt dans ce sens-là en disant qu'au fond, désormais, on peut... avoir l'esprit libre pour s'occuper de ce qu'il y a autour de nous. On n'est plus obligé de passer son temps à l'étude, à ingurgiter des livres parce qu'ils existent en peu d'exemplaires. Donc ça a encore une fois des effets ambivalents. Si on quitte simplement l'écriture ou simplement le livre, il y a Freud dans un livre important de 1927 qui s'appelle « Malaise dans la civilisation, malaise dans la culture » justement qui, tout à l'heure je vous disais, on peut partir de faits pour problématiser, part d'un constat. Il dit ça fait déjà 150 ans depuis la première révolution industrielle qu'il y a un développement technique très fort, un progrès technique aussi très fort. Et est-ce que les hommes se sentent plus heureux? Parce qu'au fond, le bonheur, c'est pas quelque chose. Il faut d'abord demander, est-ce que vous vous sentez heureux? C'est aux gens de le dire. Eh ben non. Il y a des moyens de communication plus développés, la médecine a fait du progrès, etc. Et pourtant, les gens ne se sentent pas plus heureux. Et Freud essaye de comprendre pourquoi. C'est ce que vous indiquiez tout à l'heure avec le pharmacon. Certes, maintenant, il est plus facile de se déplacer. Mais justement, puisqu'il est plus facile de le déplacer, les gens sont plus éloignés les uns des autres. Les moyens de communication ont certes rapproché les gens, mais ils les ont aussi éloignés. Il y a un livre qui réactualise cette thèse-là de Sherry Turkle qui s'appelle « Seul ensemble ». C'est la même chose, si vous voulez, avec les réseaux sociaux ou l'informatique ou les messageries. Ou le téléphone, vous pouvez être en relation avec quelqu'un qui est loin. Mais puisque c'est plus facile d'être en relation avec quelqu'un loin, vous allez avoir moins d'hésitation à vous éloigner et ça vous rend aussi moins disponible avec la personne qui est là présente à côté de vous. Donc ça relie autant que ça isole. Donc au fond, ça s'annule. Et peut-être même que ça produit des problèmes auxquels on ne pensait pas. Donc ça produit autant de problèmes que ça en résout peut-être.
Le progrès technique apporte donc finalement autant de solutions que de problèmes, voire même peut-être plus de problèmes que de solutions d'ailleurs.
Je ne sais pas si on peut dire, c'est compliqué à mesurer, est-ce que c'est vraiment proportionné, est-ce que les parts sont égales, je ne sais pas. Si on revient, faisons un petit travail réflexif, c'est pas, donc on a dit quelque chose en première partie, c'est pas oublié, il faut revenir dessus, essayons de comprendre pourquoi Descartes n'a pas réussi à anticiper les effets toxiques, nocifs des techniques qu'il désirait, auxquelles il aspirait. Par exemple, on peut supposer qu'il voulait automatiser un certain nombre de processus sur un certain nombre de choses. Eh ben, en automatisant un certain nombre de processus ou de choses, ça signifie que l'homme, du coup, perd en autonomie. C'est plus lui qui tient l'outil et qui décide de ce qu'il en fait, mais il suit un processus mécanique. Et au fond, il est obligé d'attendre que la machine ait terminé son processus, ou il doit, comme on le constate, appuyer sur un bouton ou placer une pièce. Et la machine produit sa propre logique, c'est-à-dire de production, d'efficacité. C'est celui qui produit la machine qui décide de ce qui sera produit et plus celui qui s'en sert. Donc ça produit plein d'effets pervers ou plein d'effets, en tout cas qu'on peut juger mauvais, pas satisfaisants, qu'une conception naïve de la technique ne nous a pas permis d'anticiper.
Donc en creusant tous ces aspects vraiment négatifs, est-ce qu'on peut toujours parler de progrès si le progrès technique apporte plus de mal que de bien donc?
Non. Effectivement, il faudrait parler de développement technique. Pour qu'on puisse parler de progrès technique, vous avez raison, il ne faut pas simplement que... Alors, progrès technique dans le sens où, du point de vue de l'efficacité, si c'est l'efficacité qui détermine ce que c'est que la technique, oui, il y a un progrès, c'est plus efficace. C'est de plus en plus efficace et de plus en plus performant. Par contre, si on indexe le progrès sur l'amélioration de la qualité de vie, sur l'augmentation du bonheur, est-ce que le bonheur est le seul critère qu'il faut prendre en compte? La question est un peu utilitariste. Je fais une petite parenthèse, l'utilitarisme, c'est une philosophie morale qui nous dit qu'un acte est moral s'il augmente le bonheur collectif. Et le bonheur, c'est compris comme une quantité de plaisir, c'est comme quelque chose de mesurable. Bon, c'est peut-être plus compliqué que ça, l'existence. Et des fois, c'est très contrasté, il peut y avoir des choses tragiques. Donc, si on indexe le progrès technique sur le bonheur, il faudrait parler d'évolution, de développement, mais le terme de progrès n'est peut-être pas bon. Des fois, il faudrait même utiliser le terme de régrès technique.
Donc, au final, est-ce que ce progrès technique actuel qu'on nous vend, donc comme vous avez parlé, dans la Silicon Valley ou dans le développement des technologies autonomes comme la domotique, est-ce que c'est réellement nous qui les utilisons, ou est-ce qu'on peut même aller plus loin en disant qu'au final, on en devient dépendant et c'est elle qui nous utiliserait?
Oui. Alors je compte en parler dans la troisième partie, j'y reviendrai peut-être, parlons-en maintenant. On a tendance à considérer que la technique est neutre, parlait tout à l'heure d'un objet technique simple, un couteau. Alors un couteau, c'est, vous l'avez en main et vous décidez de vous en servir soit pour couper de la viande, soit pour tuer quelqu'un. Donc le couteau n'est ni mauvais ni bon, ça dépend de l'usage qu'on en fait. En réalité, un couteau c'est fait pour couper. Donc ça vous incite, dès que vous le prenez, à faire un geste particulier. Même chose avec un marteau, vous pouvez en servir pour faire du mal comme pour construire. Mais dès que vous avez un marteau en main, ça vous incite à faire tel geste. Donc il est extrêmement naïf de croire que la technique est neutre, puisque les objets techniques sont produits dans des objectifs, dans des fins, dans des buts particuliers. Et dans des buts particuliers qui sont décidés par ceux qui alors pas nécessairement les ingénieurs qui les fabriquent, mais ceux qui en décident. Que ce soit des industriels, que ce soit des financiers. Donc, il faut surtout sortir de cette idée que la technique serait neutre et dépendrait de nos usages. Par exemple, pour les réseaux sociaux, on pourrait considérer, on peut faire un mauvais usage de Facebook ou un bon usage de Facebook. Je m'en sers pour m'informer ou je m'en sers pour poster des images débiles et chercher des likes, etc. Bon, en réalité, Facebook obéit à une certaine logique, justement, de reconnaissance, de likes. Le but, c'est d'augmenter les consultations. Pour que les gens y soient le plus souvent, donc ça produit de l'addiction et ça peut produire aussi de la bêtise. Parce que la logique auquel répond ce réseau social n'a pas été déterminée de manière autonome par les utilisateurs.
Donc, ceci dit, si nous avons désormais que le progrès technique n'assure pas nécessairement le progrès de notre bonheur, en fin de compte, n'est-il pas possible, et c'est ce que nous verrons dans la troisième partie, de l'orienter plus précisément vers le fait qu'il soit plus bénéfique pour nous que nuisible. N'a-t-on pas moyen de l'orienter? C'est ce que nous verrons dans notre troisième partie. Mais nous allons maintenant marquer une petite pause musicale, le temps d'écouter Les Mains d'Or de Bernard Lavilliers, et nous nous retrouvons juste après pour traiter la troisième partie de notre dissertation. A tout de suite.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminées muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal. Pas dérivant, je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Avec mes mains d'or, travailler au corps, travailler au corps, acier rouge et main d'encre, travailler au corps, travailler au corps, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler au corps, travailler au corps.
Nous sommes de retour dans le studio de Bac FM 106.1 pour continuer notre émission consacrée à la préparation de l'épreuve de dissertation de philosophie du baccalauréat. Nous sommes toujours sur le sujet « Le progrès technique est-il une assurance de bonheur ?» et nous étions arrêtés sur la transition vers notre troisième partie et nous nous demandions si, maintenant que nous savons que le progrès technique n'assure pas forcément le bonheur, n'est-il pas possible de l'orienter de telle sorte qu'il soit plus bénéfique que nuisible ?
Alors si, faut espérer. Faut aussi donc ne pas compter que automatiquement hein, et aveuglément comme ça le bonheur, le progrès technique fasse notre bonheur ou que c'est la seule chose qui soit susceptible de faire notre bonheur. Néanmoins, on se doute bien que ça peut y contribuer. Donc une des possibilités qu'on aurait à l'aune de cette troisième partie, ça consisterait donc du coup à développant la thèse carrément inverse. Peut-être qu'il faudrait régresser techniquement pour revenir au bonheur. Peut-être qu'il faudrait se débarrasser du progrès technique pour parvenir au bonheur. Alors d'une part, c'est très compliqué, il y a quelque chose un peu comme une inertie dans nos sociétés ou de se passer de ce progrès technique, c'est très compliqué. Est-ce que du reste c'est souhaitable? Je ne sais pas. Donc faut sans doute pas y renoncer. Par conséquent, comment faire en sorte de garder ce qu'il y a de bon dans le progrès technique et qui à proprement parler est un progrès? Tout en essayant de diminuer les effets toxiques. Je précise pour quelles raisons on ne peut pas renoncer comme ça à la technique, renoncer au progrès technique. Au fond, ce serait renoncer sans doute à notre humanité, même s'il y a des techniques qui sont inhumaines, parce que, alors c'est un philosophe qui est très intéressant sur la technique, qui s'appelle Gunther Anders, qui a développé ce concept à partir, c'est la bombe atomique qui lui a fait penser à cela, de supraliminarité. C'est quoi la supraliminarité? C'est le fait que les conséquences de nos objets techniques, de nos productions techniques, sont tellement énormes, gigantesques, qu'on est incapable d'en avoir une représentation mentale, qu'on est incapable de les penser, qu'elles nous dépassent. Alors cela mis à part, si le progrès technique peut nous détruire, normalement il nous a essentiellement constitués. Je fais référence aux travaux d'un anthropologue et technologue qui s'appelle André Leroy-Gourand, qui... Alors je caricature un petit peu sa thèse, je simplifie pour que ça soit rapide pour la radio. Dans un livre qui s'appelle « Le geste et la parole », il montre bien que si l'homme a une intelligence qui s'est développée, s'il a pu se mettre à parler, et puis parler c'est la condition ensuite pour pouvoir penser, c'est parce que justement il s'est servi de ses mains, qu'il s'est mis à manipuler des objets, qu'il s'est mis justement à devenir un technicien. C'est parce que l'homme est un technicien qu'il a des mains, ou parce qu'il a des mains qu'il est technicien, mais plutôt parce qu'il est technicien qu'il a des mains, et que son cerveau s'est développé. Ne rien savoir faire de ses 10 doigts, c'est extrêmement grave. Et dans un morceau de musique que vous avez choisi tout à l'heure de Feu Chatterton, justement, il y a cette importance, mais qu'allons-nous faire de nos mains? À quoi vont nous servir nos mains? C'est quoi ce nouveau monde dans lequel on se servirait plus de nos mains? Ce serait le Wi-Fi, ce serait le Bluetooth qui déciderait à notre place. Donc faut pas renoncer à la technique. Faut renoncer par contre peut-être à certaines techniques ou adapter des techniques.
Renoncer donc aux techniques où on utiliserait moins nos mains, où l'homme serait moins actif, justement, comme on l'a vu que l'activité menait plus au bonheur et la passivité au plaisir.
Ouais.
Et laisser tout faire à la technique, est-ce que ce serait pas lui laisser notre salut, mais juste en étant dépendant et en ne faisant plus rien?
S'en remettre complètement à la technique, oui. Alors, vous rejoignez ici la thèse d'un philosophe qui s'appelle Jacques Ellul, effectivement, qui a bien vu la fascination de notre société pour la technique, une fascination qui est tellement forte qu'on ne l'aperçoit pas. C'est ce dont on parlait un peu tout à l'heure. On fait justement ce mouvement réflexif vers le solutionnisme. Le solutionnisme, quand on l'énonce, on dit bon, c'est évident, quoi, tout problème est un problème technique. On voit tout sous l'angle de la technique. Donc oui, c'est devenu effectivement, ça remplaçait la religion. Qu'est-ce qui, dans les autres sociétés, pouvait justement sauver l'homme? C'était pas la technique, c'était Dieu. Or, là, justement, la technique se substitue aux prérogatives de Dieu, qui permettait d'assurer quelque chose comme une vie après la mort, ou donc d'éviter la mort. C'était Dieu. Là, maintenant, c'est la technique. N'attendons pas que Dieu nous vienne en aide, venons-nous en aide directement par la technique.
Donc on parle dans la troisième partie de développer donc une pharmacologie, toujours venant du terme de pharmacone, pour limiter les effets toxiques, pour justement pouvoir rendre ce progrès technique plus bénéfique que nuisible. Donc en quoi consisterait de faire une pharmacologie et dans quelle mesure est-ce possible?
Alors la pharmacologie, ça consiste d'abord à bien prendre acte, bien comprendre qu'effectivement les objets techniques d'abord sont ambivalents. Donc comme on disait tout à l'heure, renoncer à cette idée qu'ils sont neutres, que ça dépend de l'usage, donc avoir déjà une idée claire sur ce que c'est que la technique, et c'est beaucoup. Ensuite, ça pourrait consister, c'est par exemple une thèse, la thèse qui est développée par Illich, notamment, pas que ça, Ivan Illich, qui est un philosophe et aussi théologien du XXe siècle, qui consiste à retourner vers ce qu'il appelle des outils conviviaux. Un outil, c'est pas une machine. La machine a tendance à être automatisée et donc à suivre ses propres procédures, à nous imposer une certaine logique, alors que l'outil est plus convivial dans le sens où il permet une plus grande créativité. On s'en sert un peu comme on veut. Quand on veut, quand on en a marre, on le repose, on le remet dans la boîte à outils et il ne nous dit pas ce qu'on doit faire. Et par conséquent aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, on est plus actif. Revenons vers cette idée que le bonheur, au fond, serait non pas lié seulement, même si ça compte hein, sans doute évidemment, à la facilité, mais ou à l'absence de pénibilité, mais c'est peut-être lié à l'autonomie. Ce qui semble caractériser l'homme par rapport à d'autres créatures, c'est le fait qu'il soit créateur, qu'il ne se contente pas de répéter mécaniquement ou de reproduire. Donc il a besoin de pouvoir mettre dans ce qu'il produit, dans le produit de son travail, quelque chose de lui-même, d'incorporer dans la matière extérieure un monde dans lequel il peut se reconnaître. Si le monde dans lequel vous vous trouvez est produit par les autres, vous n'avez pas la place pour y imposer votre marque ou pour le constituer ou pour y être bien et pour vous y retrouver. Donc privilégiez des outils plus simples, plus conviviaux et renoncez aux grosses machines si tant est que ce soit possible. Est-ce que il est aussi possible pour les hommes cette fois-ci, pris du point de vue plus collectif, du point de vue plus politique, d'essayer de reprendre en main les décisions, enfin comment dire, la commercialisation, le développement de certaines techniques? On a l'impression que c'est désormais la technique, alors que ce soit sous la forme d'une technocratie, d'un pouvoir des techniciens, des ingénieurs, etc., ou des experts, que c'est désormais la technique qui pilote, au fond, qui gouverne, et plus véritablement des décisions démocratiques. Il y a comme une forme de fatalité, ça me semble assez bien illustré par la 5G. Il est impossible de renoncer à développer cette cinquième génération de réseaux mobiles. Il faut absolument qu'on le fasse. Il faut absolument qu'on développe le numérique. Il faut absolument... et au fond, dans ce cadre-là, les décisions sont déjà prises avant même qu'on ait mis ça à la discussion. Donc il y a une perte, au fond, de pouvoir politique par une forme de nécessité technologique ou technique qui s'imposerait et qui ne serait pas discutable. Donc déjà reprendre ce pouvoir politique là-dessus, et c'est une reprise d'autonomie, une reprise d'activité. L'homme est un être politique, il n'a pas à laisser à la technique le soin de décider à sa place. C'était d'ailleurs, je suis un peu long, je termine là-dessus, c'est ce que signifiait la cybernétique. Cette discipline, cette science de l'information et de la communication qui articulait plusieurs sciences, qui s'est développée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, notamment par Norbert Wiener. Cybernétique, ça vient de Kubernetes en grec, qui signifie le gouvernail, c'est-à-dire la capacité à commander, à diriger, à donner un cap. Ce que normalement les hommes devraient faire. C'est normalement aux hommes de dire, voilà pourquoi on veut faire des techniques, quelle est la finalité de la technique, et pas aux techniques ou à un progrès automatique de la technique à décider de sa finalité, de ses finalités à notre place.
En fin de compte, pour essayer de minimiser les effets toxiques et rendre le progrès technique le plus bénéfique possible pour nous, il faudrait donc reprendre les rênes et continuer d'agir et ne pas rester passif devant toutes ces nouvelles technologies et ces nouveaux progrès techniques.
Oui, ce qui est très difficile, puisque encore une fois, il faut sortir de cette fascination qu'on a à l'égard de la technique, et ça semble très difficile. À titre illustratif, Bernard Stiegler, qui est décédé en août dernier, ça me semble important d'en parler, qui a fait un travail de réflexion sur les techniques, la technique, très très intéressant, qui a développé sur un territoire en particulier, donc quand la philosophie rejoint aussi le travail politique ou le travail social, de faire un territoire apprenant et de développer ce qu'il appelle une économie contributive, c'est-à-dire prenant acte du fait qu'il y a une automatisation de plus en plus grande du travail, ce qui va produire, ce qui va supprimer beaucoup d'emplois. Donc c'est très bien en un sens l'automatisation, puisque ça permet de nous débarrasser de tâches qui seraient pénibles, etc. Mais plutôt que de ne plus rien faire, il faut se servir de cette automatisation pour que, pendant ce temps-là, les personnes qui n'ont plus de travail puissent profiter de ce temps pour se former, pour produire des choses qu'on ne peut pas automatiser. Autrement dit, les techniques ont tendance à nous prolétariser, c'est-à-dire à nous faire perdre en capacité puisqu'elles font à notre place. J'ai plus besoin de faire la cuisine, j'ai plus besoin d'éduquer mes enfants, j'ai plus besoin de... puisqu'il y a des techniques, il y a des appareils qui vont faire tout ça à ma place. Donc on perd en capacité, donc on perd aussi en activité. Là, l'automatisation, ça nous permet justement de garder notre temps libre pour apprendre des choses, créer des choses que les machines ne peuvent pas faire. Et c'est quoi cette économie contributive? C'est un peu comme le statut d'intermittent. Lorsque vous travaillez, vous accumulez le droit à toucher un salaire, et lorsque vous ne travaillez pas, vous pouvez bénéficier justement de cet argent pour vous former et apprendre de nouvelles choses.
Donc, en fin de compte, c'est cette perspective qui semblerait la meilleure, mais qui semble aussi très compliquée à atteindre. Donc, maintenant que nous arrivons à la conclusion de notre dissertation, est-ce que vous avez des conseils pour juste que faut-il mettre dans la conclusion, en fin de compte?
Alors, vous ne mettez rien d'autre finalement dans votre conclusion que ce qu'on doit trouver à la fin de votre troisième partie. Donc la conclusion, ça consiste à dire voilà ma réponse. On pourrait imaginer un correcteur qui n'ait pas envie de prendre le temps de regarder tout le développement de la pensée, qui regarde voilà, alors quel est le problème, quelles sont les difficultés qui ont été extraites par l'élève à partir du sujet qui lui est posé, puis se reporte directement à la conclusion, il sait où trouver la réponse, voilà la réponse, voici les principaux arguments qui viennent justifier, étayer cette réponse, et c'est tout. Je dis et c'est tout, puisque parfois on peut conseiller aux élèves de faire ce qu'on appelle une ouverture, c'est-à-dire de poser une question qui renvoie vers une autre dissertation. Je trouve que ça fait chic, un peu de frais, que la plupart du temps, alors c'est pas simplement la plupart du temps, c'est que tout le temps les élèves, quoi qu'il en soit, n'y répondront pas, c'est-à-dire que cette dissertation, vous ne la ferez pas, et c'est maladroit, puisque si vous posez une question à la fin de votre dissertation, c'est une question qui est directement en prise avec le sujet qu'on vous a posé. Et donc ça consiste souvent à montrer que il y avait un problème dans le sujet qu'on vous a posé, que vous l'avez vu, mais que vous l'avez pas traité. Et donc le correcteur vous dirait, voilà, s'il y avait un problème là, il est intéressant celui-là, pourquoi tu n'y as pas réfléchi? Donc évitez de faire des ouvertures, voilà la conclusion, voilà ma réponse, je m'arrête ici.
Donc la conclusion, ne vous prenez pas la tête, répondez clairement au sujet et à la question, et évitez les ouvertures un petit peu trop frauduleuses. Nous arrivons maintenant à la fin de notre dissertation, et à la fin également de notre émission. C'est le moment de rendre notre copie et aussi l'antenne. Merci à tout le monde, à l'équipe de Bac FM,
merci
et à Monsieur Denuy. Et bonne journée à vous, chers auditeurs, et à bientôt.